Voltaire, sottise des deux parts. Sottise des deux parts est, comme on le sait, la devise de toutes les querelles. Oh, je ne parle pas ici de celles qui ont fait verser le sang. Les anabaptistes qui ravagèrent la Westphalie, les calvinistes qui allumèrent tant de guerres en France, les factions sanguinaires des Armagnacs et des Bourguignons, le supplice de la Pucelle d'Orléans, que la moitié de la France regardait comme une héroïne céleste et l'autre comme une sorcière, la Sorbonne qui présentait requête pour la faire brûler, l'assassinat du duc d'Orléans, justifié par des docteurs, les sujets dispensés du serment de fidélité par un décret de la sacrée faculté, les bourreaux, tant de fois employés à soutenir des opinions, les bûchers allumés pour des malheureux à qui on persuadait qu'ils étaient sorciers ou hérétiques, tout cela passe la sottise. Ces abominations, cependant, étaient du bon temps, de la bonne foi germanique, de la mauvaise naïveté gauloise. Et j'y renvoie les honnêtes gens qui regrettent toujours les temps passés. Non, je ne veux ici que me faire, pour mon éducation personnelle, un petit mémoire instructif des belles choses qui ont partagé les esprits de nos aïeux. Dans le XIe siècle, dans ce bon temps où nous ne connaissions ni l'art de la guerre qu'on faisait toujours, ni celui de policer les villes, ni le commerce, ni la société, et où nous ne savions ni lire ni écrire, des gens de beaucoup d'esprit disputèrent solennellement, longuement et vivement sur ce qui arrivait à la garde-robe quand on avait rempli un devoir sacré dont il ne faut parler qu'avec le plus profond respect. C'est ce qu'on appela la dispute des stercoristes. Cette querelle n'excita pas de guerre et fut du moins par là une des plus douces impertinences de l'esprit humain. La dispute qui partagea l'Espagne savante au même siècle sur la version mozarabique se termina aussi sans ravage de province et sans effusion de sang humain. L'esprit de chevalerie qui régnait alors ne permit pas qu'on éclaircisse autrement la difficulté qu'en remettant la décision à deux nobles chevaliers. Celui des deux Don Quichotte, qui renverserait par terre son adversaire, devait faire triompher la version dont il était le tenant. Don Luis de Malanza, chevalier du rituel mozarabique, fit perdre les arçons au Don Quichotte du rituel latin. Mais comme les lois de la noble chevalerie ne décidaient pas positivement qu'un rituel dût être proscrit parce que son chevalier avait été désarçonné, on se servit d'un seul et plus sûr et fort en usage pour savoir lequel des deux livres devait être préféré. Ce fut de les jeter tous deux dans le feu, car il n'était pas possible que le bon rituel ne fût préservé des flammes. Je ne sais comment il arriva qu'ils furent brûlés tous deux. La dispute resta indécise, au grand étonnement des Espagnols. Et peu à peu, le rituel latin eut la préférence, et s'il se fut présenté par la suite quelques chevaliers pour soutenir le mozarabique, c'eût été le chevalier et non le rituel qu'on eût jeté dans le feu. Dans ces beaux siècles, nous autres peuples polis, quand nous étions malades, nous étions obligés d'avoir recours à un médecin arabe. Quand nous voulions savoir quel jour de la lune nous avions, il fallait s'en rapporter aux Arabes. Si nous voulions faire une pièce de drap, il fallait payer chez un juif. Et quand un laboureur avait besoin de pluie, il s'adressait à un sorcier. Mais enfin, lorsque quelques-uns de nous eurent appris le latin et que nous eûmes une mauvaise traduction d'Aristote, nous figurâmes dans le monde avec honneur. Nous passâmes 300 ou 400 ans à déchiffrer quelques pages du Starigite, à les adorer et à les condamner. Les uns ont dit que sans lui nous manquerions d'articles de foi, les autres qu'il était athée. Un Espagnol a prouvé qu'Aristote était un saint et qu'il fallait fêter sa fête. Un concile en France a fait brûler ses divins écrits. Des collèges, des universités, des ordres entiers de religieux se sont anathémisés réciproquement au sujet de quelques passages de ce grand homme que ni eux ni les juges qui interposèrent leur autorité ni l'auteur n'entendirent jamais. Il eut beaucoup de coups de poing donnés en Allemagne pour ces braves querelles, mais enfin il n'eut pas beaucoup de cendres répandues. C'est dommage pour la gloire d'Aristote qu'on n'ait pas fait la guerre civile et donné quelques batailles rangées en faveur des quidités et de l'universel de la barbarie de la chose. Nos pères se sont égorgés pour des questions qu'ils ne comprenaient pas davantage. Il est vrai qu'un fou fort célèbre nommé Occam, surnommé le docteur invincible, chef de ceux qui tenaient pour l'universel de la part de la pensée, demanda à l'empereur Louis de Bavière qu'il défendît sa plume par son épée impériale contre Scott, autre fou écossais surnommé le docteur subtil, qui bataillait pour l'universel de la part de la chose. Heureusement, l'épée de Louis de Bavière resta dans son fourreau. Qui croirait que ces disputes ont duré jusqu'à nos jours, et que le Parlement de Paris, en 1624, a donné un bel arrêt en faveur d'Aristote? Vers le temps du brave Occam et de l'intrépide Scott, il s'éleva une querelle bien plus sérieuse dans laquelle les révérends pères cordeliers entraînèrent tout le monde chrétien. C'était pour savoir si leur potage leur appartenait en propre, ou s'il n'en était que de simples usufruitiers. La forme du capuchon et la largeur de la manche furent encore les sujets de cette guerre sacrée. Le pape Jean XXII, qui voulut s'en mêler, trouva à qui parler. Les cordeliers quittèrent son parti pour celui de Louis de Bavière, qui alors tira son épée. Il y eut d'ailleurs trois ou quatre cordeliers le brûler comme hérétique. Cela est un peu fort, mais après tout, cette affaire n'ayant pas été branlée de trop des ruinées des provinces, on peut la mettre au rang des sottises paisibles. Il y en a toujours eu de cette espèce. La plupart sont tombés dans le plus profond oubli. Et de 400 ou 500 sectes qui ont paru, il ne reste dans la mémoire des hommes que celles qui ont produit ou d'extrêmes désordres ou d'extrêmes ridicules, deux choses qu'on retient assez volontiers. Qui sait aujourd'hui s'il y a eu des orbites, des glossmites, des insodoriens? Qui connaît les oins, les pâtissiers, les cornassiens, les iscariotistes? Un jour, en dînant chez une dame hollandaise, je fus charitablement averti par un des convives de prendre bien garde à moi et de ne pas aviser de louer Voetius. « Bon, je n'ai nulle envie, lui dis-je, de dire ni du bien ni du mal de votre Voetius. Mais pourquoi me donnez-vous cet avis ?»« Ah, c'est que madame est coxéienne, » me dit mon voisin. « Hélas, très volontiers, lui dis-je. » Il m'ajouta qu'il y avait encore 4 coxéiennes en Hollande, et que c'était grand dommage que l'espèce périt. Un temps viendra où les jansénistes qui ont fait tant de bruit parmi nous et qui sont ignorés partout ailleurs auront le sort des coxéiens. Un vieux docteur me disait « Monsieur, dans ma jeunesse, je me suis escrimé pour le mandata impossibilia volantibilis et conantibilis. J'ai écrit contre le formulaire et contre le pape. Et je me suis cru confesseur. J'ai été mis en prison et je me suis cru martyr. Actuellement, je ne me mêle plus de rien, je me crois raisonnable. « Quelles sont vos occupations ?» lui dis-je. « Monsieur, me répondit-il, j'aime beaucoup l'argent. » C'est ainsi que presque tous les hommes, dans leur vieillesse, se moquent intérieurement des sottises qu'ils ont avidement embrassées dans leur jeunesse. Les sectes vieillissent comme les hommes. Celles qui n'ont pas été soutenues par de grands princes, qui n'ont point causé de grands maux, vieillissent plus tôt que les autres. Ce sont des maladies épidémiques qui passent comme la suette et la coqueluche. Il n'est plus question des pieuses rêveries de Madame Guyon. Ce n'est plus le livre inintelligible des Maximes des Saints qu'on lit, c'est le Télémaque. On ne se souvient plus de ce que l'éloquent Bossuet écrivit contre le tendre, l'élégant et l'aimable Fénelon. On donne la préférence à ses oraisons funèbres. Dans toute la dispute sur ce qu'on appelait le quiétisme, Il y a eu de bon que l'ancien conte réchauffé de la bonne femme qui apportait un réchaud pour brûler le paradis et une cruche d'eau pour éteindre le feu de l'enfer, afin qu'on ne servît plus Dieu par espérance ni par crainte. Je remarquerai seulement une singularité de ce procès, laquelle ne vaut pas le compte de la bonne femme. C'est que les jésuites, qui étaient tant accusés en France par les jansénistes d'avoir été fondés par saint Ignace exprès pour détruire l'amour de Dieu, sollicitèrent vivement à Rome en faveur de l'amour pur de monsieur de Cambrai. Il leur arriva la même chose que monsieur de Langeais, qui était poursuivi par sa femme au Parlement de Paris pour cause d'impuissance, et par une fille au Parlement de Rennes pour lui avoir fait un enfant. Il fallait qu'il gagnât l'une des deux affaires, mais il les perdit toutes deux. L'amour pur pour lequel les jésuites s'étaient donné tant de mouvements fut condamné à Rome, et ils passèrent toujours à Paris pour ne vouloir pas qu'on aimât Dieu. Et cette opinion était tellement enracinée dans les esprits que lorsqu'on s'avisa de vendre dans Paris, il y a quelques années, une taille douce représentant notre Seigneur Jésus-Christ habillé en jésuite, un plaisant, oh, c'était apparemment le loustic du parti janséniste, mis ses vers au bas de l'estampe, admirez l'artifice extrême de ces pères ingénieux. Ils vous ont habillé comme eux, mon Dieu, de peur qu'on ne vous aime. À Rome, où l'on n'essuie jamais de pareilles disputes, et où l'on juge celles qui s'élèvent ailleurs, on était fort ennuyé des querelles sur l'amour pur. Le cardinal Carpegne, qui était un reporter de l'affaire de l'archevêque de Cambrai, était malade et souffrait beaucoup dans une partie qui n'est pas plus épargnée chez les cardinaux que chez les autres hommes. Son chirurgien lui enfonçait de petites tentes de limon, qu'on appelait du cambrai en Italie, comme dans beaucoup d'autres pays. Le cardinal criait. Mais c'est pourtant du plus fin cambrai, disait le chirurgien. Quoi, du cambrai encore là? Disait le cardinal. N'était-ce pas assez d'en avoir la tête fatiguée? Heureuses les disputes qui se terminent ainsi. Heureux les hommes, si tous les disputeurs de ce monde, si les hérésiarques s'étaient soumis avec autant de modération, avec une douceur aussi magnanime que le grand archevêque de Cambrai qui n'avait nulle envie d'être hérésiarque. Je ne sais pas s'il avait raison de vouloir qu'on aimât Dieu pour lui-même, mais monsieur de Fénelon méritait d'être aimé ainsi. Dans les disputes purement littéraires, il y a eu souvent autant d'acharnement, autant d'esprit de parti que dans des querelles plus intéressantes. On renouvellerait, si on pouvait, les factions du cirque qui agitèrent l'Empire romain. Deux actrices rivales sont capables de diviser une ville. Les hommes ont tous un secret penchant pour la faction. Si on ne peut cabaler, se poursuivre, se nuire pour des couronnes, des tiares, des mitres, nous acharnerons les uns contre les autres pour un danseur, pour un musicien. Rameau a eu un violent parti contre lui qui aurait voulu l'exterminer, et il n'en savait rien. Oh, j'ai eu un parti plus violent contre moi-même, et je le savais bien.